pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les colis Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
On va parler aujourd'hui de la question des CAF, justement des caisses d'allocation familiale, de leur organisation et aussi de comment elles fonctionnent, parce que pour nous en tant qu'allocataires et allocatrices, c'est toujours pas simple, hein, c'est toujours la question de la fonction publique et de l'administration, hein, c'est toujours un petit peu cette espèce de serpent de mer qui est toujours un peu difficile à cerner, plus encore aujourd'hui avec la numérisation, mais ça on y reviendra parce que ça a pris beaucoup de place dans nos vies. Et on va en parler avec notre invité justement, parce qu'on parlait de changer de cap et on a carrément le président, carrément. Alors ça c'est oh là là, c'est je ne sais plus quoi dire là, c'est voilà. Et donc ben justement, il va se présenter.
Merci. Mon nom est Didier Minot. Je suis ingénieur agronome de formation. J'ai travaillé longtemps dans l'administration. Je suis retraité depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai animé différents collectifs avec une vie militante parallèle à ma vie professionnelle. Aujourd'hui, on a créé Changer de Cap, qui est un collectif né en janvier 2019 dans le sillage des Gilets jaunes. Au départ, je suis allé le 1er décembre 2018 sur les Champs-Élysées, assez dubitatif en me disant « Ah, c'est l'extrême droite », etc. Et puis, j'ai discuté avec une dizaine de groupes et je suis revenu en me disant qu'il y avait des choses importantes qui se passaient et qu'il fallait essayer de rapprocher les revendications sociales des Gilets jaunes et les revendications écologiques des marches pour le climat à l'époque. On s'est vite aperçu qu'il y avait une grande convergence entre les deux et aussi avec les mouvements comme ATTAC, les Amis de la Terre, Stop Précarité, etc. Et du coup, on a créé ce collectif qui est devenu un lieu de mutualisation entre différents collectifs locaux assez vite, avec des groupes qui se diversifiaient, les uns étant en revendication contre, par exemple, la privatisation des barrages à Serre-Ponçon, d'autres qui ont mis en place des actions porteuses d'alternatives aujourd'hui et maintenant, sans attendre de changement de constitution, et puis d'autres qui préparaient les municipales et pour être présents sur les territoires. Quand la crise sanitaire est arrivée, tout ça s'est un petit peu disloqué. On a travaillé Covid Entraide et après, on a vu que les gens étaient découragés parce que le jour d'après était pire que le jour d'avant. Et du coup, on a développé le positif, donner les bonnes nouvelles, les succès dans notre lettre mensuelle qui est envoyée à 13 000 contacts. Hein. Quand un jour on est arrivé sur, on a eu deux témoignages de membres du collectif qui nous ont fait état des problèmes qui se posaient, qui étaient posés par les relations que les CAF entretenaient avec leurs allocataires. Et donc, du coup, on a lancé un appel à témoignages Et on pensait avoir, comme on le fait habituellement, 5 ou 10 réponses.
Ouais.
Ça a été une avalanche de réponses, avec des gens qui appelaient au secours, isolés, des problèmes qu'on ne soupçonnait pas. Et du coup, on a dit, il faut absolument qu'on travaille là-dessus.
Mais alors justement, cette pluralité de personnes, comment ça a fonctionné? Parce que c'est pas évident, justement, de pouvoir que toutes ces personnes puissent se parler, réfléchir ensemble. Est-ce que justement, tu parlais des gilets jaunes, est-ce que justement, ça a été quelque chose qui a un peu accéléré les choses?
Alors, oui, si je reviens un peu en arrière sur ce qu'est le collectif Changer de Cap, on regroupe des gens très divers sur la base de principes communs. Et on arrive à travailler ensemble parce qu'on accepte les différences, parce qu'on n'a pas, on cherche pas à définir une ligne politique, on ne cherche pas à définir un point de vue unique, mais le fait de discuter ensemble, de faire ensemble, dans cet esprit de tolérance, et puis du fait que les différences nous enrichissent. On a des gens qui sont à la France insoumise, on a des gens qui sont chez les Verts, on a des gens qui sont sur une ligne plutôt libertaire, on a de tout, hein, et des gens surtout qui n'ont pas une conscience politique suffisamment nette pour dire je suis ici ou je suis là. On est attaché à changer les choses dans la réalité en s'appuyant sur les expériences locales. Ce qui est commun, c'est cet attachement à la valorisation des pratiques porteuses d'alternatives sur le terrain. On pense que ces pratiques peuvent renouveler la réflexion politique et l'action politique, et que les partis politiques auraient grand besoin de s'appuyer sur la créativité des acteurs sur le terrain. Et inversement, on pense que la solution ne peut pas résider pour un changement de société de la multiplication des initiatives locales, un peu comme le disent les colibris, Pierre Rabhi et tout ça. C'est très sympathique, mais ça ne suffit pas.
Non.
Voilà.
Ça manque un peu de...
Et donc, du coup, il faut... comme on le disait dans le temps, relier le mouvement d'en haut et le mouvement d'en bas, et avoir cette articulation entre des propositions politiques et des actions de terrain.
Et puis c'est toute la question aussi des villes et de la campagne, parce que on n'a pas les mêmes possibilités quand on est dans des villes comme des grandes villes comme Paris par exemple, et quand on est au fin fond de la campagne. Comment du coup ça on l'articule aussi dans Changer de Cap?
Alors au début on était un collectif essentiellement parisien, parce que on faisait nos réunions de coordination à Montreuil, dans une arrière-salle de bistrot. Quand il y a eu le confinement, on a découvert qu'on pouvait fonctionner à distance par Zoom. Mmh. Et du coup, on reste avec cette organisation entièrement à distance, avec des gens qui sont à égalité, qu'ils soient à Paris, à Montceau-les-Mines, à Strasbourg ou en Corrèze. Et du coup, on a cette liaison naturellement entre territoire urbain et quartier, territoire périurbain et territoire ruraux. Il y a les trois.
Il y a les trois. Donc ça s'articule un peu sur
C'est très bien, c'est très riche. Hein,
ouais. Oui, ça donne aussi, parce que ouais, on a toujours l'impression que ce n'est que les grandes villes, et en fait, non, c'est aussi ce qu'il y a autour. Mais en 2021, ça s'est un petit peu, il y a eu une autre étape en 2021, un petit peu.
Alors, en 2021, donc c'était après le Covid, hein, on a fait un séminaire l'année dernière. Là, je suis en 2022, mais c'est pas grave. On a fait un séminaire où on s'est posé la question, quelles sont nos priorités, où est-ce qu'on veut aller, etc. Et on avait dit qu'il fallait absolument, face à des situations qui s'aggravent pour énormément de gens, avoir des lieux, des groupes d'entraide et des collectifs citoyens, des collectifs d'habitants, des syndicats d'habitants, des coopératives d'habitants. Il y a mille dénominations, mais ça revient à compter sur l'initiative des personnes et une auto-organisation qui permet de ne pas être seul déjà, parce que beaucoup se découragent quand ils sont isolés, qui permet aussi de mener des actions et qui permet de réfléchir ensemble.
Tu peux donner un exemple d'action ?
Un exemple d'action élémentaire. Hein, voilà. On a eu, au moment des Gilets jaunes, les Gilets jaunes d'Auriol, qui ont voulu mettre en place une usine hydroélectrique pour produire leur électricité eux-mêmes. Hein. Et ça n'a pas débouché, mais il y a eu toute une réflexion. Ils avaient un vieux moulin qu'ils voulaient remettre en place. Hein. Un pressoir itinérant dans les Hautes-Alpes qui valorise les productions de pommes des producteurs familiaux parce qu'ils sont envahis par des producteurs industriels et ils ont ce pressoir qui est à la fois un outil économique mais aussi un outil de convivialité puisque on retrouve la fête, on retrouve le voilà,
hein. Se retrouver ensemble quoi aussi.
On est voilà le vivre ensemble. Hein. On a aussi par exemple on est en lien avec la case de santé à Toulouse qui fait de la santé communautaire. Vous êtes peut-être déjà au courant de ça. Mmh. Hein. Voilà. Et qui considère que...
Alors nous, on est au courant par rapport à Saint-Denis, puisque à Saint-Denis, il y a...
La SCBE.
Tout à fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le même réseau. Hein.
Ouais.
C'est le même réseau. Et donc, cette approche de la santé communautaire qui s'intéresse à la fois à tous les aspects de la vie et qui considère la santé comme un bien-être, ça nous paraît très important. Ouais. Alors, des exemples comme ça, on en a 240.
Hein. D'accord.
On a mis sur le site toutes ces expériences et on espère que ça peut constituer des pistes pour agir pour des groupes qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas toujours comment agir. Et l'exemple est vraiment une bonne école pour pouvoir agir efficacement.
Oui, alors c'est vrai que dans le mot entreprendre, on y met beaucoup de choses, mais en tout cas, pouvoir se réapproprier, tu parlais de politique, pouvoir se réapproprier la politique, parce que le sens du mot politique, c'est la cité.
Absolument.
C'est pas les estrades, c'est aussi la cité, c'est qu'est-ce qu'on fait tous ensemble.
Absolument.
Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors c'est intéressant parce que du coup, on est un peu loin de la CAF et pas si loin que ça, en fait.
Absolument, absolument. Parce que c'est parce qu'on s'intéresse à la réalité des actions locales et des situations locales qu'on est tombé sur ce problème de la CAF, un peu par hasard au début. Mmh. Et petit à petit, on a acquis une expertise. Hein, on a acquis parce qu'on a creusé les questions. On a regardé les causes des problèmes qu'on rencontrait et qui ont des causes à la fois politiques, à la fois sociologique, administrative, etc. On a été amené à développer notre action dans plusieurs directions. Hein. Et actuellement, on est organisé avec trois groupes de travail qui chacun ont une vingtaine de personnes. Un sur le juridique et le politique. Un second sur l'entraide et l'accompagnement des allocataires qui nous arrivent tous les jours. Et un troisième sur la signification du numérique, le rôle du numérique dans la déshumanisation et la privatisation des services publics. Et donc là, on est en lien aussi avec d'autres groupes, Halt au contrôle numérique, etc. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Nous, on est restés sur les CAF parce que c'était déjà un énorme morceau et on n'avait pas les moyens d'aller sur ce qui se passe dans les caisses d'assurance vieillesse, dans les caisses d'assurance maladie, à Pôle emploi, etc. Mais on sait qu'il y a les mêmes problèmes, on travaille avec eux, et il nous paraît indispensable de creuser les questions pour aller au fond des choses.
Oui, ça c'est vrai, c'est marrant, ça fonctionne. Il y a des étapes qui se sont faites, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, ouais, il faut passer par des étapes pour arriver effectivement à ça. Et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la question des services publics, on y est tous confrontés, en fait.
Oui.
Ça, c'est quelque chose, on peut pas passer à côté, quoi.
Ah ben oui, absolument.
Et peut-être justement, pour illustrer justement cette question-là, on va lancer le petit témoignage. Alors pour le présenter un petit peu, c'était il y avait une assemblée générale qui s'était faite sur les contrôles Pôle Emploi et caisse d'allocation familiale, et c'était le 8 février 2022.
Ah, oui. Je m'appelle Nadine. Et en 2016, j'ai eu la bonne surprise, le 13 septembre plus exactement, de recevoir une notification qui m'indiquait que ma situation avait été réévaluée par la CAF. Et donc, je leur étais redevable d'un indu au titre de l'APL d'un montant de 4 644,35 €. Voilà, donc le 13 septembre, je reçois ça. Voilà, sans explication ni quoi que ce soit. Et en échangeant des courriers avec eux, parce que bien évidemment, je ne reconnaissais pas la dette et je la contestais avec vigueur, dans le cadre de ces échanges, je vais découvrir des informations petit à petit qui vont m'amener à me poser énormément de questions. On lui a prélevé 57 €, on m'a prélevé 176 €. Un mois après la notification, donc ils n'ont même pas retenu le caractère suspensif d'une contestation. Je touchais à l'époque la SS, donc 505 € par mois. Et puis après, la machine s'est mise en branle, donc lettre de contestation, recommandé sur recommandé. Voilà, je déploie toute ma vie, mes ressources pour leur dire « vous me laissez avec un reste à vivre négatif ». Ils n'en ont eu cure et ils ont même été jusqu'à interpréter mon dernier courrier de contestation comme une demande de remise de dette. Donc j'appuie là-dessus parce que ça produit des effets, ce qu'on appelle des effets juridiques. Forcément, quand on demande une remise de dette, on reconnaît l'existence de la dette. Donc forcément, le directeur de la CAF du Val-de-Marne va m'envoyer un très beau courrier recommandé le 23 décembre en me disant que j'ai fait une fausse déclaration. Et donc, la remise de dette est refusée. Et donc, 176 € qui sont prélevés chaque mois jusqu'à épuration de la dette. Donc, tout ça, ça part du fait que, en 2015, j'ai été licenciée économique. Et qu'au moment où j'ai déclaré ma nouvelle situation, il n'y a pas de case sur le site de la CAF qui indique « Allez-vous recevoir prochainement des allocations de la part du Pôle emploi ?» Auquel cas, bien évidemment, j'aurais répondu oui. Donc du coup, moi, j'ai laissé couler. Voilà, j'ai laissé couler parce que quand on apprend à 45 piges qu'on est licencié économique, c'est dur à avaler. Par la suite, je vais prendre un avocat, je vais aller au tribunal administratif. Forcément, je vais être débouté parce que j'ai fait, soi-disant, une demande de remise de dette. Par contre, à ce moment-là, je vais apprendre que j'ai fait l'objet d'un contrôle inopiné. Donc, qui conduit à la répétition de cette demande de remboursement de la dette. Et faut savoir que dans la charte du contrôle sur place, un contrôle inopiné, c'est l'agent assermenté qui débarque à l'improviste chez vous, qui peut-être ne vous trouve pas, parce que forcément, on a des courses, on a des rendez-vous chez le médecin, on a des choses de la vie, on a des obligations dans sa vie de tous les jours. Et normalement, il doit vous indiquer qu'il est passé et donc vous convoquer à un prochain rendez-vous. Justement pour vous demander, c'est écrit ainsi dans la charte du contrôle sur place de la CAF qui date du 27 janvier 2016. Et donc moi j'apprends que j'ai fait l'objet d'un contrôle inopiné. Voilà, donc chose que je ne savais pas le 13 septembre 2016. Donc comme je suis quelqu'un de têtu, du coup je me pourvois en cassation. Parce que pour moi, mes droits ont été bafoués de la plus abjecte des manières. Et je reste à la porte du bureau de l'aide juridictionnelle du Conseil d'État qui me dit qu'il n'y a pas de matière à cassation. Alors même que j'invoque le caractère discriminatoire du contrôle dont j'ai fait l'objet, parce que je découvre en parallèle dans le rapport du défenseur des droits de 2017 qu'il y a une circulaire sur laquelle se fonde la CAF pour opérer ses contrôles, qui cible notamment les personnes nées hors de l'Union européenne. Donc le défenseur des droits va demander à la CAF de mettre fin à cette circulaire. Visiblement, elle serait toujours en application. Donc à partir de là, moi, quand j'ai connaissance de ces faits, je les porte à la connaissance du Conseil d'État en me disant, c'est quand même des gens qui connaissent un peu le droit, mais que nenni, ils me disent qu'il n'y a pas de matière à cassation du tout. Voilà. Mon pourvoi est rejeté. En 2019, je vais exercer mon droit d'accès aux documents administratifs et aux données personnelles me concernant. Et là, rebelote, je vais découvrir de nouveaux éléments sur le fait que j'étais ciblée sur le fondement de mon lieu de naissance, qui n'a rien à voir, encore une fois, je le répète, avec ma nationalité, parce que je suis française par filiation, je n'ai jamais eu d'autre nationalité que la nationalité française. J'ai juste le malheur d'être née à Casablanca, au Maroc. Voilà. Par la suite, ce qui m'a fait encore plus bondir, c'est que je vais découvrir que mon fichier bancaire FICOBA a été visité par un agent qui n'est pas assermenté pour le faire. Donc ça aussi, c'est très, très, très réglementé et structuré. Sur le document, il biffe le nom de l'agent. Et voilà. Et puis moi, avec mon côté un peu Columbo, je vais avec la torche de mon téléphone arriver à voir les reliefs du nom de famille et du prénom. Et je vais aller vérifier sur le recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne si cette personne est assermentée. Elle ne l'est pas. Donc il y a quelqu'un qui a violé mes données personnelles, sans contrôle, sans rien, sûrement avec l'aval de la direction et de ses supérieurs. Concrètement, ils ont récupéré tout l'argent. Moi, bien évidemment, quand j'ai eu connaissance de tous ces faits, j'ai déposé plainte par le biais d'un avocat qui défend un ancien agent de la CAF qui a dénoncé des contrôles fictifs. Maître Zagouri, j'ai déposé une plainte au pénal pour discrimination et violation de données personnelles. Ça, c'est ce que j'ai pu, moi, établir personnellement. Il faut savoir que la CAF et le Pôle emploi échangent tous les mois, tous les 20 du mois. C'est pas normal qu'on arrive à des indus d'un tel montant. C'est fait justement pour nous simplifier la vie et pour que justement il n'y ait pas d'indus qui conduisent à des sommes mirobolantes. Par la suite, en janvier, le fisc transmet les nouvelles ressources. Donc ils ont déjà aussi là les nouvelles ressources. Il n'est pas normal d'attendre 15 mois pour arriver à un montant faramineux pour une personne seule qui vit avec ses deux enfants.
Voilà, donc on est toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, on est avec Didier Minot, donc du collectif Changer de Cap. Alors, j'aimerais que tu réagisses sur ce qu'on vient d'entendre. Ça pose beaucoup de questions. Hein. C'est vrai que là, on entend quelqu'un d'assez combatif. Oui. C'est pas le cas de tout le monde, mais ça dit beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà la violation de sa vie personnelle, quoi. Il y a quand même quelque chose d'assez fort, quoi.
Ce témoignage est tout à fait symptomatique il rejoint les très nombreux témoignages qu'on a reçus. On en est à plus de 150 témoignages et on retrouve de très nombreuses pratiques qui sont illégales. Et c'est incroyable de retrouver dans un organisme de cette ampleur, qui a un rôle public, etc., de telles libertés, de tels manquements aux obligations des principes élémentaires du droit. Hein. Alors si on reprend ce qu'elle a dit, on voit que les règles de notification des... quand la CAF estime qu'il y a un indu, les règles de notification ne sont pas respectées, ni les délais, ni les voies de recours, alors que c'est un principe général, qu'on ne laisse pas à la personne un temps de réponse face à ce qu'on lui reproche pour qu'elle puisse se défendre. Il y a également une opacité de la règle du jeu. Les règles de financement sont gardées secrètes et font l'objet de circulaires internes qui auparavant étaient publiées, mais depuis la dématérialisation ne le sont plus. Et donc, la personne ne peut pas se défendre faute de savoir comment a été calculé son indu, avec quel mécanisme et sur la base de quelles données. Bon, on retrouve aussi dans cet exemple les pressions et le fait qu'on interprète que sa déclaration comme une demande de remise de dette, ce qui effectivement juridiquement équivaut à la reconnaissance de cette dette, et au fait qu'ensuite il y a un acharnement juridique, procédural de la CAF pour obtenir gain de cause et non alors que sa mission est d'obtenir le paiement à bon droit. C'est ça là, dans les textes, c'est-à-dire le juste paiement. Et ça, ça vient d'une chose, ça vient de ce que les CAF ont dans leur convention avec leur tutelle un objectif de reconnaissance de fraude, de reconnaissance d'indu qu'elles doivent et qui est croissant chaque année. Hein, 200 millions, 220, 230, jusqu'à 280 millions en 2022. Hein. Et donc, cette injonction à faire du chiffre, qui est tout à fait analogue à la politique du chiffre qui existe dans la police, amène à des contrôles à charge et non à décharge. Amène à transformer un certain nombre de procédures pour que on puisse exiger la fraude. Alors, quand on va au tribunal et qu'on se bat comme elle l'a fait avec acharnement, on finit souvent par avoir gain de cause. Mais il n'y a qu'un allocataire sur 100 qui suit toute cette démarche. Et la plupart abandonnent en cours de route. La CAF perd 3 procès, mais dans le même temps, elle a récupéré de l'argent sur 10 000 allocataires. Donc il y a profondément...
Oui, pour un ou une allocataire, c'est...
Voilà, c'est 10 000 qui ne vont pas au bout et qui acceptent. Dans les premiers témoignages qu'on a eus, il y a une femme qui avait reçu une lettre et lui disant « Nous avons consulté vos comptes en banque. Nous avons constaté que vous avez reçu 30 euros par mois de votre père. » Forcément, la pauvre femme, elle n'avait plus d'argent. Hein. Ouais. Vous n'avez pas déclaré cette somme, vous l'avez fait de façon répétitive, donc nous vous signalons sur le fichier fraude. Quand on l'a vu, quand on a eu ce témoignage, on lui a dit il faut résister, etc. Mais cette femme était tellement terrorisée qu'elle a reconnu la fraude et qu'elle a payé. Et c'est scandaleux, c'était vraiment une situation qui nous a révoltés. Hein, vraiment, voilà. Alors, pour revenir au témoignage qui a été fourni à l'antenne, ce qui est formidable, c'est qu'elle a fini par trouver la faille juridique qui était que la personne qui avait consulté ses comptes n'était pas assermentée. Mais c'est extrêmement rare de pouvoir faire ça.
C'est-à-dire assermentée, c'est-à-dire ?
Eh bien, un contrôleur, il y a à peu près 800 contrôleurs. Mmh. Ces contrôleurs prêtent serment. Et le serment est léonin, hein, c'est « je jure de respecter la loi », etc.
Ouais.
Et du fait qu'ils sont assermentés, leur parole prévaut sur celle de l'allocataire.
D'accord.
Et quand l'allocataire va au tribunal, c'est de parole contre parole et c'est la parole du contrôleur qui gagne. C'est exactement comme quand vous avez une contravention avec un gendarme qui vous arrête et qui vous dit « monsieur, vous avez passé la ligne jaune », c'est sa parole qui vaut sur la vôtre.
Ouais.
Voilà, c'est le même système.
Mais... Sauf que là, à part quelques exceptions de contrôle, mais sinon, ces gens-là, on ne les voit jamais, en fait, puisque tout se passe par numérique, quasiment.
Alors, il y a trois sortes de contrôles. Il y a des contrôles par croisement de données informatiques, des contrôles sur pièce. On demande à l'allocataire de fournir toute une série de documents, et des contrôles sur place par un contrôleur qui vient à votre domicile. Et ces contrôles peuvent être sur rendez-vous ou inopinés.
D'accord.
Et là, elle parle d'une des choses qu'on a relevées, c'est-à-dire que le contrôleur dit « j'ai fait un contrôle inopiné, je suis venu à votre domicile, vous n'étiez pas là, c'est assimilé à un refus de contrôle », alors que c'est illégal aussi. Hein. Ça fait partie, on a établi une longue liste d'anomalies. Il y en a une trentaine.
D'accord.
Qui...
Ah, quand même.
Ah oui, il y a une trentaine d'anomalies importantes. Hein.
Ah.
Et donc, on demande à la CNAF de pouvoir traiter ces
Caisse
anomalies.
Caisse nationale d'allocation familiale. Hein.
Pardon. Caisse nationale d'allocation familiale, désolé.
Non, pas de souci.
Voilà. Et donc, Donc, on a découvert progressivement un univers de dérives et d'irrégularités par un organisme qui est trop peu contrôlé et...
Un peu en roue libre, quoi.
En roue libre, voilà. Et avec des objectifs qui sont avoir le moins possible, distribuer le moins possible de prestations et tous les moyens sont bons pour y arriver.
Alors pourtant, je ne sais pas si c'est pareil pour la caisse d'allocation familiale, mais par exemple, on a entendu ces temps-ci qu'il y a pas mal de gens qui ne réclament pas leurs droits.
Absolument.
Est-ce que au niveau de la caisse d'allocation familiale, on est dans la même situation ?
On est au cœur du problème. L'objectif qui a été énoncé par Macron, c'est maîtriser les finances, maîtriser les prélèvements obligatoires. Alors, prélèvement obligatoire, déjà, c'est un terme qu'on récuse. Maîtriser la part de la richesse nationale qui va à l'intérêt général et qui va à la solidarité. Et donc, il faut diminuer ces prélèvements parce qu'il faut avoir moins d'impôts, moins de charges sur les entreprises, augmenter la compétitivité des entreprises. Et ça a été encore répété. Il l'a dit sous une forme polémique avec le pognon de dingue. Et ça ne change même pas la direction.
Le fameux pognon de dingue qu'on devrait traverser, qu'on devrait trouver en traversant la rue.
Non, ça c'est le travail qu'on devrait trouver. Oui, mais il avait dit aussi, toutes ces aides, ça coûte un pognon de dingue. Et ça ne change même pas la situation des gens. Sans dire, bien sûr, que par ailleurs, il y a une politique d'entretien du chômage et de réduction des allocations chômage qui précipite de plus en plus de gens dans les minima sociaux, dans au RSA, etc. Sans dire aussi qu'il y a des gens qui sont handicapés.
Bien sûr.
Et que voilà. Et normalement, c'est un droit, puisque la Constitution de 1946 dit bien que la nation doit assurer à tous les moyens de vivre quand ils ne peuvent pas les assurer par eux-mêmes. Alors, cette injonction de diminution des prélèvements obligatoires se traduit pour la CAF par « vous devez vous arranger pour que il y ait le moins possible de RSA, pour qu'il y ait le moins possible d'AH aussi, d'allocation handicapée, et le moins possible d'allocation logement et de prime d'activité ». Il y a eu la réduction de 30 euros des allocations au logement dès le début de Macron, qui a montré le sens dans lequel on voulait aller. Mais le durcissement des contrôles fait partie du dispositif. Et donc là, on est face à des contrôles extrêmement violents. Face à ça, face aussi à la complexité administrative, il y a de nombreux allocataires qui ne font pas appel à leurs droits. Et d'où le chiffre sur le RSA, le tiers des allocataires renoncent à le demander. Des ayants droit, on va dire, parce qu'ils ne sont pas allocataires, puisqu'ils ne demandent pas.
Eh bien, on va faire une pause musicale.
Just screwed, cause this word is misconstrued. Small countries exempt from food, cause leaders have different views. You choose.
What mean the world to me is being free. Live and let live and just let it be.
Let it be.
Love, peace, and harmony. One universal family. One God, one aim, and one destiny.
Oh, yeah. Imagine life without a choice at all. Giving a vote without a voice at all. These be the problems that we face. I'm talking poverty and race. But no matter what the case, we gotta
hold on to this feeling.
Candidate to hate, had to beat on the drum to
to communicate. For what was to come to those who were hung, they would decapitate the tongue if you would mention the word
freedom. Got people screaming free Bumia Jamal, but two out of three of y'all will probably be at the mall. I'm heated with y'all, the defeated will fall, incomplete and unsolved when the word freedom's involved.
Yo, my forefathers hung in trees to be free.
Rest in peace.
Got rid of slavery but still kept the penitentiary. And now freedom got a shotgun and shells with your name. Release the hot ones and let freedom
I'm a
ring.
I'm a boat prisoner, Hollywood visitor. Dance for cats segregated on wax. My color got me handy. Cap, Anus, and Andy for the freedom they just won't hand me.
So true and it been hurting so long. That's the reason why we named this song. Cause it's not a lot of time. Your heart, body, soul, and your mind. It's so true and it been hurting so long. That's the reason why we named this song.
Et nous sommes en compagnie de Digne Mino, du président du collectif Changer de Cap, et nous parlons de la situation de la caisse d'allocation familiale. Alors justement, pendant la pause musicale, on discutait, hein, voilà, et bien il y a les conquis, hein, effectivement, il y a les conquis, puis aujourd'hui on a affaire aux technologies numériques, et il y a la question du data mining.
Oui.
Alors quand même, ça c'est quelque chose. Est-ce qu'on sait, Didier, si c'est récent ou pas le data mining ?
C'est assez récent. C'est lié au développement des capacités du numérique. Les caisses d'allocation familiale ont mis ça en place aux alentours de 2012.
Ouais.
Et ça s'est accentué en 2017. Hein. L'objectif... Et de cibler les contrôles là où les contrôles ont le plus de chances d'avoir un bon rendement financier. C'est ça leur ils assimilent le ministère du budget assimile la CAF à une entreprise dont les recettes sont les cotisations, les dépenses les prestations, et il faut maximiser l'écart. Et du coup on a développé tout un système à la fois de surveillance, on est dans une société de surveillance, de contrôle social et de harcèlement des plus pauvres. On est dans un... Alors comment ça se passe ? La CAF a accumulé plusieurs centaines de données par allocataire pour 13 millions d'allocataires qui représentent 42 millions de personnes. C'est-à-dire que plus d'un Français sur deux est fiché par la CAF.
D'accord.
Ces données sont triturées, c'est ça que veut dire data mining en anglais, pour établir des corrélations entre le risque d'erreur et la situation des personnes. Et de ce fait, on cible les contrôles sur les femmes seules avec enfants, sur les personnes d'origine étrangère, sur celles qui ont des revenus irréguliers, sur celles qui ont changé de situation au cours des 12 derniers mois, etc. Et ces calculs sont faits de façon extrêmement centralisée et puissante, et les contrôleurs reçoivent des feuilles avec la liste des personnes à contrôler.
Une forme de profilage, quoi.
C'est un profilage, c'est absolument un profilage. On attribue à chaque personne un score de risque de fraude ou d'erreur. Alors, je dis fraude ou erreur parce qu'il y a une confusion entre la fraude et l'erreur.
En 2009, il disait modélisation des risques de fraude et d'indu.
Voilà. De fraude. Alors, l'indu, la fraude, c'est une forme d'indu. Hein. Mmh. Bon. Mais ça, c'est beaucoup. Déjà 2009, donc effectivement, ouais. ça s'est développé depuis. Ça n'existe pas que pour la CAF. C'est le même système pour la publicité quand vous recevez des publicités ciblées chez vous. Hein. Ils ont repéré où vous habitez, votre âge, etc. Hein. Bon. Mais là, ce qui pose problème, c'est que c'est contraire au RGPD, au règlement de protection des données européen, Et c'est contraire au code des relations entre le public et l'administration. Et donc, nous demandons, nous, le respect de ces dispositions légales pour que on assure la protection des personnes.
Et en 2010, la Commission nationale informatique et liberté a donné son autorisation. Donc depuis 2011, cette modélisation a été généralisée et la CNIL n'a pas eu grand-chose à y redire apparemment. En quoi,
voilà. Alors il y a eu effectivement 4 mises à jour successives de ce data mining. Mais la CNAF n'a pas demandé l'actualisation de son agrément. L'agrément avait été demandé au départ pour favoriser l'accès au droit. Mais tous les paramètres qui sont utilisés pour bâtir le profilage le sont uniquement sur la récupération d'indus et les risques de fraude. Et une des critiques que nous émettons, c'est que si on ciblait les gens qui ont du mal à accéder à leurs droits, on aboutirait à un dispositif complètement différent où les contrôles seraient là pour vous aider à accéder à vos droits et non pour vous retirer de l'argent.
Et puis précisons quand même que les grandes fortunes, elles ne sont pas aussi ciblées que le citoyen lambda, quoi.
Ah bon, non, mais en plus, alors c'est aussi un mot d'ordre politique, comme dit Vincent Dubois dans un livre très intéressant qui s'appelle « Contrôler les assistés », entre guillemets, le mot « assisté » étant utilisé au deuxième degré. Il montre que depuis 1996, mais très largement depuis Sarkozy, le thème de la fraude aux prestations familiales, la fraude des pauvres, est utilisé pour dévaloriser la solidarité et pour montrer que au fond, tous ces gens qui profitent de la charité publique sont des fraudeurs et profitent de la situation. Et c'est la même logique. Alors ça s'est accentué sous Hollande et encore plus avec Macron. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas une justification économique ou en termes de respect des droits qui est centrale, c'est ce mot d'ordre politique. Pour mémoire, la Cour des comptes avait chiffré à 307 millions d'euros le montant des fraudes constatées en 2021. Et c'est vraiment insignifiant. C'est 0,4% des montants des allocations distribuées, alors que le non-recours est 80 fois plus important et la fraude sociale est également plusieurs centaines de fois plus importante. Et là, je n'arrive pas à faire le pourcentage pour la fraude fiscale et l'évasion fiscale.
Donc voilà, mais c'est vrai qu'eux, ils partent du principe que les pauvres sont plus nombreux. Donc même s'il n'y a pas grand-chose à prendre, on va continuer à le prendre, quoi. C'est vraiment un truc de gribouille, quoi.
Alors je pense que la justification principale...
C'est pas dit comme ça.
Hein, c'est pas de récupérer de l'argent... c'est de dissuader les gens d'avoir recours aux prestations. Parce que le non-recours, les fraudes constatées, c'est 300 millions d'euros. Le non-recours, c'est 3 milliards d'euros rien que sur le RSA. Ce n'est pas chiffré sur les autres prestations, mais ça existe. Et puis, y a des gens qui ne s'inscrivent même plus. Hein. Donc, ils sont même plus.
Ils sont découragés, quoi.
Ils sont découragés. Ouais. Et c'est cette contention au sens où on contient les taureaux, vous savez, avec un anneau. Hein. C'est cette contention qui constitue le principal justificatif. Sinon, le coût des contrôles équivaut à peine à l'argent qu'on récupère.
Alors, sur ce, voilà, le 5 mai, vous avez publié un communiqué de presse.
Oui.
Ça s'intitule donc 75 organisations appellent à des changements d'orientation majeurs pour remettre l'humain et le droit au cœur de l'action des caisses d'allocations familiales. Et il y a un petit témoignage, on va dire, en dessous. Je suis sorti du contrôle avec l'impression que tout ce à quoi je croyais était renversé. La CAF n'est pas une alliée, mais quelque chose de malsain.
Oui, bah oui. Ben oui, les CAF qui sont faites pour la solidarité sont devenues des outils d'une maltraitance institutionnelle qui cible les plus pauvres et qui cible les plus fragiles, les plus vulnérables. Et ça, c'est c'est à la fois un problème juridique, mais aussi un problème éthique. Hein. Et c'est un problème politique, puisque c'est la base de la Constitution et qui est bafouée. Hein. Alors, on a lancé cet appel à 6 changements d'orientation majeurs.
Juste avant, ça vient quand même de la question de la prochaine convention d'objectifs et de gestion qui détermine les politiques des caisses d'allocation familiale pour les années à venir. Hein.
C'est ça, absolument. Absolument. On est en phase de négociation de la nouvelle convention d'objectifs qui va fixer en particulier les moyens et les effectifs d'agents des CAF. Et là, on a un énorme problème parce que le ministère du budget, qui exerce une co-tutelle sur les caisses d'allocation familiale avec le ministère des Solidarités, exige depuis 10 ans des suppressions de postes. Ils appellent ça « rendre des postes ». Mais les rendre à qui, mon Dieu ?
À la poésie, hein.
Absolument. Elle se cache partout. Et du coup, un des enjeux de la prochaine convention d'objectifs, c'est de savoir si on va rétablir un nombre de postes suffisant pour que les allocataires n'aient pas face à eux seulement une machine, mais une personne physique qui puisse les écouter, qui puisse les
orienter.
Les orienter et puis qui puisse tenir compte de leur situation particulière pour les faire accéder à leurs droits, pour calculer le montant de leurs prestations en toute objectivité.
Et ça, ce n'est pas un ordinateur qui peut le faire.
Hein. Il y a tellement de situations particulières que c'est très difficile. Et dans le témoignage tout à l'heure, la personne disait qu'elle avait voulu remplir sur l'ordinateur et que la case, il n'y avait pas la bonne case. Ouais. Et ça, on l'a vérifié 1000 fois. Et il y a même une expérimentation de l'INRIA, l'Institut de la Recherche Informatique appliquée à laquelle on collabore, pour montrer que les questionnaires de simulation concernant les aides au logement ne comportent pas les indications légales qui sont nécessaires et que si on prend les indications légales, on arrive à d'autres résultats. Donc on est face à aussi une mauvaise qualité de la numérisation et une improvisation, et ça c'est lié aux prestataires privés qui
ont pris la main un peu,
qui ont pris la main, mm-hmm. hein, et qui très largement réalisent les programmes.
Mais ils ont pris la main parce que l'État s'est désengagé aussi de ses prérogatives quelque part, parce que c'est aussi garantir l'accès à toutes et à tous de conseillers. On le voit dans d'autres secteurs, aux impôts, enfin bref. C'est qu'il y a un désengagement au profit du numérique et ce qui fait que on se retrouve un petit peu tout seul à essayer de gérer un peu ce que dit la machine, quoi.
Exactement. La personne est seule face à un ordinateur et face à une complexité des procédures et des contradictions entre les procédures qui sont telles que même les agents ont du mal à s'y reconnaître aujourd'hui. Ouais. Donc, ce que nous demandons avec les 75 organisations qui ont signé l'appel, c'est qu'on revienne à qu'on restaure l'accueil physique des usagers par des agents formés et qualifiés des CAF, qu'on rétablisse la transparence avec la fin du secret des circulaires internes et des règlements, ce qui est à proprement parler aberrant et contraire à la définition même d'une circulaire qu'on trouve sur Internet qui dit que ça doit être normalement sur un site, accessible à tous, etc. Ouais. Hein, c'est que qu'on ait une autre construction du numérique, d'un numérique au service des allocataires et des agents, hein, et que de ce fait, on soit en conformité avec le RGPD et le Code des relations entre le public et l'administration. Alors ça fait un ensemble de revendications qu'on a ce soir même une réunion de tous les signataires pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que face à la non-réponse que nous avons par rapport à ces demandes, est-ce qu'on demande audience au ministre ? Est-ce qu'on fait une manifestation devant Bercy ? Est-ce que, etc. Et surtout, comment on peut se mobiliser localement ? C'est pourquoi c'est très important que nos auditeurs se mobilisent localement. Ils peuvent trouver sur le site du collectif www.changerdecaptoutattaché.net beaucoup d'indications et beaucoup de pistes pour agir. Et je pense qu'il faut, il faut agir tous, parce que au-delà de la convention d'objectifs actuelle, on a une action de long terme à mener pour une autre conception du numérique. Je pense qu'on est, on est aussi là-dessus.
Alors, ces conventions, c'est combien de temps qu'elles durent, ces conventions ?
C'est la troisième, je pense.
Mais sur combien d'années ?
Sur 5 ans.
C'est 5 ans, d'accord.
Oui, c'est sur 5 ans.
Donc, tous les 5 ans, on va dire, on fait un bilan, quoi.
On fait un bilan, mais le bilan était tellement mauvais qu'il n'a pas été publié par l'Inspection Générale de l'Action Sociale, d'accord, à notre connaissance.
D'accord.
La situation est tellement difficile que la convention devait démarrer au 1er janvier dernier. Elle n'est toujours pas signée. Elle ne le sera vraisemblablement qu'en septembre. Donc, on est dans un contexte de dégradation profonde de la situation des CAF. En interne, on est en contact avec des agents qui nous disent que c'est une catastrophe, qu'il y a une souffrance au travail des agents des CAF qui est très importante, un peu comme à l'hôpital.
À Pôle emploi.
Ou dans l'éducation nationale. Il y a des agents chevronnés qui s'en vont. Et on est dans une situation de crise. Et il y a un autisme du ministère du Budget et du gouvernement tout entier par rapport à cette situation.
Mais alors justement, est-ce qu'il n'y aurait pas des actions un peu plus, un peu plus fortes à amener justement parce qu'ils sont assez malins, ils savent mettre des gens autour d'une table et puis dire voilà, nous on a pris conscience, vous comprenez, parce que ce n'est pas la première fois, nous on a pris conscience, qu'est-ce qui se passe, on va arranger les choses. Et finalement, bah, on voit que s'il n'y a pas un rapport de force un peu plus constant...
Mais complètement. Ouais. Alors déjà, on a créé un début de rapport de force en rassemblant de très nombreuses organisations, y compris des organisations qui ne font pas toute l'analyse politique qu'on peut faire, mais qui sont confrontées à des situations invivables sur le terrain. Dans les signataires de l'appel, il y a à la fois la Ligue des droits de l'homme, le Secours catholique, ATD Quart-Monde, la CIMAD.
La Case de santé.
Voilà, la Case de santé, absolument, ouais, absolument, ouais. Il faut la citer, en bonne place, et on est très heureux qu'ils aient signé.
Femmes contre les précarités, le chômage et les discriminations,
voilà.
Handisocial.
On a des MNCP, des mouvements nationaux des chômeurs et précaires, à la fois le national et différents groupes départementaux. On a aussi le GISTI, le groupe d'information sur le soutien aux immigrés qui travaille sur l'immigration, parce que tous partagent les mêmes constats. Hein, on est face à une situation massive. Et alors nous, on a été très étonnés de voir que ça n'était pas un cheval de bataille, ni des syndicats,
ah oui, ils sont encore, du coup,
ni des associations familiales qui siègent au conseil d'administration. Alors le conseil d'administration est un peu croupion. Mais petit à petit, on les met en mouvement. Hein, et on espère pouvoir arriver à créer une situation intenable par rapport à l'omerta actuelle.
Les syndicats sont hors du coup là-dessus ?
Pas tous et pas totalement. On a de très bons rapports avec la CGT, avec EFO. On est en train d'en établir avec la CFDT. Mais la CGC s'est plainte en conseil d'administration d'avoir reçu nos propositions parce qu'on avait, en disant, mais comment ça se fait que ce groupe a accès à notre mail ? Voilà.
D'accord.
Voilà l'état d'esprit. Hein. Mais c'est très différent les uns des autres. Hein. Mais par contre, au niveau local... On a de très bons. On partage complètement avec les syndicats locaux ces différentes. Il y a des grandes distances entre les syndicats locaux et les confédérations. Hein.
Oui, on le voit. Hein, on le voit relativement. Nous, on l'a vu même sur le mouvement sur les retraites. On voit que plus en plus, pas le fossé, mais on sent que les initiatives sont pas forcément les mêmes et perspectives non plus.
C'est ça.
Concrètement, vous attendez une réponse de l'État, qu'il se positionne.
Nous, ce qu'on attend, c'est deux choses. On attend que un infléchissement de la convention d'objectifs et de gestion pour que il y ait des recrutements suffisamment nombreux pour restaurer un minimum d'accueil physique, un minimum de contrôle des prestataires informatiques, etc. Et on attend la fin des illégalités. Et là, on est prêt à aller en justice. Hein. Mmh. On attend aussi qu'il y ait un contrôle du numérique à la fois par le droit et par la CNAF. Et ça, ça n'existe ni d'un côté ni de l'autre. Là, il y a un vrai problème.
Après, le droit, c'est l'État qui le fait. Hein.
Alors, l'État le fait, mais dans l'état actuel du droit, il y a encore des possibilités pour le moment, hein, parce que les pratiques contredisent l'état actuel du droit, même si ce droit, évidemment, n'est pas celui qu'on pourrait espérer.
Ouais. On le disait tout à l'heure, hein, politique, c'est la cité, c'est nous qui devons nous rapproprier nos propres droits aussi. Et on le disait tout à l'heure, hein, sur historiquement, c'est quand même les rapports de force, c'est comme les conquis, c'est venu. Et il y a peut-être des choses que nous devons reprendre en main aussi en tant que personne un petit peu dissolue.
Oui, bien sûr. Non, mais je crois que tout ça signifie aussi un recul par rapport aux conquis des 150 dernières années. Hein. On est en train de revenir au capitalisme du 19e siècle et on ne l'a pas développé aujourd'hui. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. On a un autre cheval de bataille, c'est de développer les collectifs citoyens sur le terrain, de développer les luttes au niveau local. Et de développer l'entraide au niveau local, parce que il faut que les gens gardent espoir avec des réalisations concrètes de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. On espère que cette dimension-là va se rejoindre avec l'action locale contre les CAF, qu'on appelle aussi à se développer.
Eh bien, écoute, je te remercie, Didier. Donc, nous étions aujourd'hui en compagnie de Didier Minot, donc du collectif Changer de Cap, et nous parlions de la situation des caisses d'allocations familiales et des perspectives. Merci à toi.
Ben, merci aussi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir évoquer ça avec les auditeurs.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Et avec vous.
Et merci à Madeleine pour la technique.